Bonjour, nous sommes sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et je vais laisser Fred Gournay, notre chroniqueur rock, auteur de Métaphysique du rock, vous présenter notre invité du jour. À vous, monsieur Gournay.
Merci Yves. Alors c'est plus qu'un plaisir, un privilège ou un honneur, c'est une joie de recevoir Rodolphe Burger, qui était déjà venu l'année dernière pour l'album Mademoiselle, réalisé avec Sofiane Saïdi et Mehdi Haddad, et qui revient aujourd'hui nous parler de son 7e album solo dénommé Avalanche, dernière bonne production, qui est dédié à son ami Pierre Alféri. Alors avant d'évoquer la mémoire de Pierre Alféri, revenons sur la réception de l'album. Alors, c'est un succès critique important. La presse est dithyrambique. Vous faites fondre de bonheur les Inrocks.
Ça me fait rire.
Moi aussi, entre autres. Alors, simple question. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut prévoir ou c'est toujours une surprise, l'accueil d'un album comme ça?
Non, c'est évidemment toujours une surprise. J'avais un peu le même sentiment quand même. Que quand j'ai fait mon deuxième album solo, Météor Show, sauf qu'avec Météor Show, je savais que j'allais être très clivant, que j'allais recevoir à la fois, je pense, je savais que j'allais toucher des gens qui étaient sensibles à une certaine forme d'innovation en termes de prod et tout. Mm-hmm. Et ça a été le cas. J'ai des retours assez dithyrambiques et de musiciens et de critiques aussi, etc. Mais par contre, je savais au moment où je le faisais que je sacrifiais absolument les passages radio. Quoi.
Les passages radio, puis même une partie du public de Catonoma, des fans rock, voilà. Ont décroché, ils n'ont pas compris.
C'est ça,
ils ont dit, c'est quoi cette trahison,
c'est quoi, cette, cet électro,
cette production,
bizarre,
un peu hip-hop dans le rythme, absolument. Jungle.
Exactement.
Oui, alors il faut le rappeler, c'était produit par Dr. L, le producteur d'Assassin. Ouais. On en avait déjà parlé quand vous étiez venu la dernière fois. Donc oui, c'est imprévisible, juste une intuition quand même, le sentiment d'avoir un très bon album et qui va forcer les gens à prendre un avis, trancher dessus.
Oui, et puis un bonheur énorme à le faire. À un moment donné, vraiment, la certitude que, en tout cas pour moi, dans mon trajet, au moment où j'en suis, ou au moment où j'en étais, il y avait une vraie nécessité de ce disque, quoi. Alors même qu'il n'était absolument pas prévu, l'album dont parlait la... Mademoiselle est assez récent, je tourne avec le trio, là je suis en train de faire une tournée aussi avec un autre trio avec Eric Marchand. Il n'y avait pas, dans une planification, maison de disque des choses, c'était presque prématuré de sortir soudain un album solo, mais il s'est vraiment complètement imposé.
C'est la nécessité de le faire, la nécessité de l'œuvre en elle-même. Mmh. Alors, donc c'est un succès mérité, hein, pour moi c'est un chef-d'œuvre, effectivement. J'ai pensé, il y a moi 4 grands albums, en tout cas je vais parler de mes albums préférés. Hein. Donc il y a Cupid, le premier album de Catonoma, il y a Stock Phrases, qui est l'avant-dernier album de Catonoma, il y a effectivement Meteor Show, voilà, et celui-là. Voilà. Enfin, c'est 4 grands jalons pour moi, en tout cas, 4 albums très importants. Un album très émouvant, profond, intense. Alors, c'est le deuxième album consacré à un ami disparu, puisque Mademoiselle était déjà un hommage à Rachid Taha. Ouais. Alors, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Pierre Alféri, bon, c'est un poète, un romancier, un traducteur, un essayiste, et qui a, entre autres, composé plus de 50 textes, soit pour Catonoma, soit pour vos albums solo. Et pour votre... Donc, dans le dernier album, il y a un texte de lui, son dernier poème. Sous le nom de Thomas Vago, ou sous son propre nom. Hein. Ouais. Alors, comment et quand avez-vous rencontré Pierre Alféri?
Alors, Pierre, pour vraiment dire les choses de manière la plus, à la fois la plus simple et la plus juste, enfin, c'est mon meilleur ami depuis le moment où je l'ai rencontré, c'est-à-dire il y a très longtemps. C'était en 80. En juillet 80, il avait 17 ans, moi pas beaucoup plus. Il se trouve que à ce moment-là, j'étais une sorte de jeune apprenti philosophe. On m'avait invité, j'étais le plus jeune participant, on m'avait invité à un colloque sur Jacques Derrida. Et j'avais fait une sorte de petite conférence en marchant sur des œufs. Il s'appelait Derrida et la police. Et Pierre, qui en réalité Pierre, son vrai nom, son nom en tout cas, à l'époque c'était Pierre Derrida, fils aîné de Jacques Derrida, il était là. Et on est devenu amis tout de suite, quoi. Bon, ensuite, on a, c'est le moment, c'est 80, c'est le moment où, à la fois je quitte Paris, je garde un pied à Paris, on est pratiquement colocataire. Rue des Feuillantines. Lui, il est un jeune philosophe brillantissime. Il écrit une thèse sur Guillaume d'Occam, qui est philosophe médiéval.
Le
fameux rasoir. Il c'est pratiquement pas traduit. Il a trouvé un des rares auteurs dans son père.
Mais c'était pas occupé.
Et il a fait une thèse magistrale qui a été immédiatement publiée chez Minuit. Mm-hmm. Il a évidemment fait sa thèse de doctorat. Alors il y avait les vieux médiévistes français qui se frottaient les mains et qui disaient on a un jeune génie là qui vient s'intéresser à notre truc. Et donc on lui offrait une quantité de postes. Et puis là, c'est le moment où il décide de ne pas, tel Bartleby, de ne pas faire philosophe. Et plutôt de bifurquer et de devenir écrivain et poète. Mmh. Et aussi, à ce moment-là, de changer de nom.
Le changement de nom, c'était pas tant que le nom du père était trop lourd à porter, c'était surtout qu'il voulait signifier qu'il s'éloignait de la philosophie et qu'il tournait un peu le dos à la philosophie.
Oui, puis aussi que, voilà, qu'il, en tant que poète écrivain, il souhaitait exister par lui-même. Voilà. Hein, c'est clair que si tu signes Pierre Derrida, tout de suite, ça crée un biais. Mmh. Et puis même, je dirais, au-delà de ça, Pierre était quelqu'un, donc dans ce processus de bifurcation, il avait un terme pour ça, qui est assez joli, qui vient de l'évolutionnisme. Il parlait de l'exaptation. L'exaptation, alors c'est un truc assez extraordinaire, Stephen Jay Gould, un évolutionniste qui s'est intéressé à l'évolutionnisme animal, et qui développe ce concept d'exaptation. Un des exemples, c'est comment les ailes sont venues aux poules. Hein. Dans l'évolution, bon, y a un truc, à un moment donné, il y a une espèce de petit duvet qui se constitue, mais qui a une fonction plutôt de couverture, de chaleur, un truc comme ça. Et puis tout d'un coup, ce truc pousse et on se rend compte que si ça se met à pousser, éventuellement, ça peut servir à voler. Donc tout d'un coup, quelque chose qui n'était absolument pas prévu se développe, qui est peut-être même issu d'un handicap. Et ça, c'est le grand truc de Pierre Alféri.
Donc c'est pas la fonction qui crée l'organe, c'est l'organe qui crée la fonction.
Exactement. Et il y a un texte de Pierre Alféri, il s'est beaucoup intéressé aussi à la figure du monstre, à la figure du... même dans le cinéma, il y avait une passion pour le cinéma, et un rapport au cinéma très intéressant. Il s'est beaucoup intéressé à quelqu'un comme Lon Chaney, l'acteur du cinéma muet, qui a joué les qui était une espèce de transformiste, quoi, extraordinaire. Bon, Pierre, en un sens, était quelqu'un qui était dans un processus de transformiste du point de vue des formes. Donc, il est passé de la poésie à la prose, il y a des romans, mais aussi la chanson, par exemple. C'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Un jour, il dit, je vais m'exapter, je vais faire ce que je suis fait pour ne pas faire. Bon. Ouais. Et par exemple, la chanson, ce n'était pas prévu au programme. Quelqu'un comme Alféri, si on regarde sa poésie, c'est, bon, je pense très franchement que c'est un des très, très grands écrivains et poètes de sa génération. Et ça, on va le savoir, on va le découvrir de plus en plus. Là, les archives ont été déposées à l'IMEC. Si on regarde l'œuvre d'Alféri, c'est considérable, et du début à la fin, dès les premiers livres. Au moment où il publie la thèse sur Occam, il publie en même temps un livre de poèmes qui s'appelle « Les allures naturelles », donc parce qu'il y a ce truc autour de l'animal et tout ça, et il publie un livre, un essai qui est extraordinaire et que je recommande, qui est incassable aujourd'hui encore, qui s'appelle « Chercher une phrase ». Et c'est une sorte de... Oui, c'est sa conception de l'écriture, et ce qui va s'appliquer ensuite à des tas de domaines, y compris donc la chanson. Là, c'est vraiment moi qui commandais.
Oui, pour le coup, vous aviez des goûts communs, j'imagine, d'abord un vécu partagé, des goûts communs, en littérature, en philosophie, évidemment. Et puisque en vous étiez... Et donc voilà, je voulais savoir, en musique, qu'est-ce que vous partagez en musique? Est-ce que Pierre était ouvert sur le rock, vraiment?
Bien sûr. Moi, je n'aurais jamais proposé ça. s'il n'y avait pas eu vraiment ce terrain commun. Donc effectivement, il y avait, on partageait cette espèce de truc dans lequel on était à ce moment-là. Lui, plus jeune que moi, mais on avait 6 ans d'écart. Quand même. Mais on était tous les deux dans une exaltation par rapport à notre milieu d'origine. Pour moi, c'est un peu le rock, puis la philosophie, puis à nouveau la musique. Mais j'aurais jamais insisté pour lui commander. Alors, il se prêtait vraiment à la commande, hein, ça j'ai découvert très vite, qu'il aimait ça aussi. Mais je lui aurais jamais demandé ça si j'avais pas d'emblée compris que c'était quelqu'un qui avait non seulement une oreille musicale, mais aussi une culture musicale phénoménale. Dans tous les domaines, hein, c'était quelqu'un qui pouvait écouter aussi bien du John Cage que du... tout d'un coup, du blues archaïque, ou un de ses groupes préférés, c'était The Fall, tu vois, qui connaissait très bien.
De Manchester.
Ouais. Ouais. Et puis, il avait aussi un goût pour les énergumènes.
Tout ce qui était hors norme, mauvais genre.
Ouais.
Voilà.
Genre les trucs, tu vois, comme une famille qui fabrique sa propre musique, son propre folklore. Et c'est un ami commun, Jacques Julien, enfin, qui était surtout un ami de Pierre, un plasticien, puis un grand spécialiste des musiques, un collectionneur de musique énergumène, qui pourvoyait comme ça Pierre en étranché, en ovni musicaux.
Ce qu'on appelle hors catégorie, ce qui sort des catégories de la pensée et de l'esthétique.
Ouais. Et ça, alors voilà, il raffolait vraiment de ça, des choses très très singulières. Et donc, quelquefois, même souvent, c'est lui qui me faisait découvrir des choses.
Ah, d'accord. Mais vous partagez quand même à la fois un amour de la philosophie et du rock. Oui. Et il faut le rappeler qu'à cette époque-là, ça n'allait pas de soi. C'était deux domaines, deux mondes qui ne se parlaient pas, qui n'avaient rien à se dire.
Oui, absolument.
Et le rock était considéré comme underground, mauvais genre, un peu décalé.
Tout à fait. Et puis, les gens, donc, par exemple, les philosophes qui m'avaient invité à ce colloque, qui organisait le colloque sur Derrida, c'était les fameux philosophes de Strasbourg, Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoulabarthe, auxquels j'étais lié, qui m'avaient convié. Mais eux ne comprenaient absolument pas ce que à ce moment-là. Hein, ensuite, on s'est retrouvé, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils fabriquent, qu'est-ce que c'est que ça. Peut-être un peu moins Lacoulabarthe, parce que Lacoulabarthe...
C'était comme même le jazz, le jazz et le rock. C'était deux points aveugles de la philosophie française.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, je me souviens très bien, c'est bien qu'on parle de ça, parce que avec Pierre, on avait assisté à des Cerisy, de séminaires, à la fois sur la littérature et sur la musique. Et Lacoulabarthe, que je connaissais bien, on est allé le voir, Pierre et moi, et on s'est dit, mais enfin, on sait très bien que ce que tu lis, c'est Faulkner, Chandler. Ce dont tu parles, c'est Blanchot et Roger Laporte. Très bien, mais jamais tu mentionnes ce que réellement tu lis au quotidien, enfin ce qui te et dont il parle extrêmement bien, mais dans la conversation. Idem sur le jazz. C'était un grand consommateur.
Oui, c'était un fou de jazz.
Il
écoutait énormément de jazz.
Absolument. On avait une passion commune. C'était James Blödelmeer.
Oui. Avec qui tu as joué.
Absolument.
Et
Lacou, il a cette phrase dans un de ses textes qui dit l'homme, il était à ce moment-là aux États-Unis, il était à un concert de James Blödelmeer à Brooklyn, et il dit, je suis allé écouter l'homme qui a le sang dans son nom. Et je lui ai fait rencontrer Blood, c'est le plus beau jour de sa vie. Donc, donc on avait vraiment des goûts communs, des intérêts communs.
Et il n'a pas écrit sur le jazz.
À peine. Il a un petit peu fait la critique du point de vue d'Adorno sur le jazz, qui était un point de vue très, très condescendant, qui n'a rien compris du tout.
Johanna Desplat-Roger, donc directrice du Collège international de philosophie, va le voir, lui pose la question, parce qu'elle fait une thèse là-dessus. Elle dit, mais pourquoi vous n'avez jamais parlé de jazz? Il dit, oui, je n'ai pas parlé de cuisine non plus. Donc, il rabaissait vraiment la musique à quelque chose de. Un art appliqué ou un art. Un sous-art, quoi, en fait, qui ne méritait pas.
Surtout qu'il n'était pas son sentiment profond, c'est ça qui est très bizarre.
Ouais.
Donc, on avait participé ensemble à une autre occasion, quand je faisais encore de la philo, une des dernières interventions que j'ai faites, c'était d'un colloque de musicologie, plutôt à Lyon, et moi je parlais d'Ornette Coleman. Je ne vous raconte pas que la tête des musicologues et des musiciens contemporains. Je leur ai fait écouter, je suis venu avec un ghetto blaster, s'ils ne connaissaient pas. Je leur ai fait écouter Inner Language et ces choses comme ça. Ils étaient là, oh non, mais qu'est-ce que. Et j'ai vérifié à quel point ils avaient un point de vue mais condescendant. Mm-hmm. Pour eux, le jazz, c'était ouais. Ils découvrent le fil à couper le beurre 50 ans après nous. Enfin,
oui, c'est comme Sartre qui parle du jazz. C'est mm-hmm. comme les bananes, ça voyage pas, ou des phrases horribles.
Ah oui, 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 c'est incroyable. Ouais.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1. Nous sommes avec Rodolphe Burger pour la présentation de son dernier album Avalanche. Et alors, on parlait donc de ces deux domaines, ces deux mondes qui ne communiquaient pas, donc le rock et la philosophie. Ça a changé depuis, mais ça fait vraiment pas longtemps.
Ouais.
Donc, vous avez fait de la philo, donc du rock. On reparlait de cet accueil critique. Est-ce que les remarques, les critiques, ça vous concerne? Les catégories de la critique, ça vous concerne? Est-ce que les avis, qu'ils soient bons ou mauvais, ça vous touche? Ou pas du tout?
Les avis, oui, bien sûr, mais c'est surtout le... Et ça, c'est assez rare, au fond, qu'on ait l'occasion de... Bah, de lire des choses, surtout dans ce domaine, dans le domaine de la rock critique, on va dire. C'est un peu moins le cas en littérature. Mais que le, comment dire, que le chroniqueur, le journaliste, prenne le risque de parler, pas seulement de donner son avis, dire c'est super, c'est pas bien, ou de donner, comme souvent, quelques points de référence, ça fait penser à, ça ressemble à, mais qu'il y ait vraiment une tentative de description, c'est très rare. Et c'est ça qui touche, c'est quand, là, je sais pas, récemment, j'ai pu justement vérifier cette différence-là. Mon ami Olivier Cadio, mon autre ami écrivain, était aussi un grand ami de Pierre Alféri. Il vient de sortir un livre, là, et très beau d'ailleurs, il s'appelle « Départ de feu ».
Lui aussi acclamé par la critique.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais alors, ce n'est pas le fait d'être acclamé, c'est le fait que ça engendre réellement, pour cette fois, plus que jamais, des vrais propos.
Ben, s'il y avait œuvre sur l'œuvre. Ouais. Quelqu'un s'était embêté à créer.
Ouais,
sur
voilà,
une
création. Ça inspire vraiment quelque chose. Les gens se cassent un peu la nanette pour dire quelque chose. Mmh. Et ça touche beaucoup. Parce que ça veut dire, voilà, que c'est pas juste une espèce de remise de. C'est pas. On donne des points, ça, on décerne des étoiles, mais on dit quelque chose.
Parce que je pensais au morceau sur l'album Avalanche qui s'appelle Merci, Merci. Est-ce que c'est un hommage à Thomas Bernhardt?
Exactement, voilà. Oui, très juste.
Justement, celui qui chante, le personnage de la chanson, du texte, remercie le prix qu'on lui alloue avec la somme conséquente, parce qu'il précise que ça va lui permettre de partir loin et loin des gens qui lui ont remis le prix.
C'est ça.
Donc je me demandais si votre rapport à la critique et au prix en général était de cet ordre. Bon, vous avez déjà répondu. Il y a le morceau Avalanche qui donne le titre à l'album. Hein. Mmh. C'est le dernier poème de Pierre enregistré avec vous. Vous pouvez parler de sa création, à quelle occasion ça s'est fait, cet enregistrement?
Alors, en fait, c'est vraiment... pour moi, c'est très, très émouvant l'existence de ce morceau et dans un disque. Parce qu'au départ, donc, il s'agit en effet du dernier poème publié de Pierre. Mmh. Bon, d'une part, je trouve le poème magnifique. Mais on en avait fait ensemble ce qu'on appelait ciné-poème. Ça, c'est quelque chose que, pendant toute la durée en fait, de réalisation de ce disque, parallèlement, on faisait avec Pierre en live, on l'a fait de nombreuses fois, ce qu'on appelait les ciné-poèmes. Et ça a été, je dirais, une joie, parce que Pierre était malade, très malade, et au point qu'il ne pouvait plus écrire. Donc le dernier poème publié n'a pas été suivi d'un travail d'écriture, mais... les ciné-poèmes, voilà quelque chose qu'il faisait avec plaisir. Et ça a été vraiment... C'est une chance quand on peut accompagner un ami en travaillant dans un moment si difficile et avec bonheur, quoi. Il aimait beaucoup aussi ça, les occasions de collaboration. Bon, les écrivains sont quand même des êtres souvent beaucoup plus solitaires que nous autres, musiciens. Et donc, quand il y avait des occasions de faire ensemble des choses, ça, c'est quelque chose qui ça le ravissait. Ouais. Donc là, on l'a fait de nombreuses fois à Maison de la Poésie, on l'a fait à Toulouse, on l'a fait à Rome.
À Villa Médicis.
À la Villa Médicis.
Donc en fait, il y avait vous à la guitare ou aux machines, Pierre, lecture de texte, et derrière, on projetait les images de cinéma.
De cinéma, monté par une formidable monteuse qui s'appelle Cynthia Delbar, mais vraiment sur les instructions de Pierre. Mmh. Là, vraiment, c'est comme si je lui avais un peu rendu l'appareil dans cette autre forme. Donc moi, je lui avais commandé des chansons. Et là, cette fois, c'est lui qui me commandait on me demandait d'être au service, au fond, comme dans un cinéma redécomposé, quoi, avec une voix off, hein, quelqu'un qui fait le son, qui fabrique le son en direct, et puis l'image. Et donc on a inventé ensemble, enfin, mais c'est vraiment lui, hein, qui était à l'origine de ça, et on a varié les dispositifs, les modes d'agencement de ça, mais on a progressivement, je ne sais pas, sur une échelle de 20-25 ans, constitué un répertoire de ciné-poèmes avec... Et moi, j'étais voué au service, et quelquefois, ça donnait quand même une occasion intéressante de montrer comment on fait une chanson, c'est-à-dire que il disait un poème, moi, par exemple, un texte s'appelait Ping Pong, et il se trouve que c'est le texte qui a engendré la chambre. C'est-à-dire que moi, j'avais prélevé la chambre de Katonoma.
Bien sûr.
J'avais prélevé deux, trois vers, comme ça, je lui ai dit, mais ça, là, tu vois, ça pourrait faire chanson. Tu veux pas qu'on en fasse une, mais alors ça suppose de réécrire à partir de ça. Donc, et il acceptait ce genre d'exercice. Quoi. Mm-hmm. Et il était un peu déconcerté parce qu'évidemment ça déplaçait, tu décontextualises, on va vers autre chose. Alors lui il me disait, mais il était scié, quoi, parce qu'on concert de voir les gens chanter, enfin, parce qu'il connaissait les paroles. Et quelque chose qui au fond lui avait un peu échappé. Et donc, il disait que ça produisait en même temps, pour lui, un effet érotique. Il voulait voir ces jeunes filles en train de chanter ces textes qui n'avaient pas au départ prévu, bon, etc.
Ce qui est incroyable avec le morceau Avalanche, quand on l'écoute, c'est qu'on n'a pas les images. Et pourtant, le texte est énormément imagé et on voit énormément de choses.
Ouais.
C'est un poème très visuel. Peu intellectuel, peu philosophique, c'est vraiment des sensations.
Absolument.
Des émotions très précises.
Et là, c'est l'exemple donc, de quelque chose pardon, qui est venu s'insérer, qui trouvait place dans l'album, alors qu'il existait sous une forme la forme d'un ciné-poème. On l'a fait plein de fois en live, avec de l'image. Et je lui ai proposé qu'on enregistre ensemble à deux voix. Et là, c'est vraiment. On a fait ça, mais un mois avant sa mort. On entend, hein, sa voix est faible,
un
mais
peu fatigué, affaiblie. Mais l'addiction est précise.
Mais l'addiction, c'est la sienne, quoi, oui. Parfaite. Et donc là, c'est non seulement c'est devenu un morceau de l'album, pour moi très important, mais ça a donné son titre.
Le titre, et puis une direction un peu.
Ouais, absolument.
On va écouter un premier extrait de l'album Avalanche, qui s'appelle L'Inattendu.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
De vous à moi, qu'attendez-vous au juste à cet endroit du temps? Est-ce le retour sans cesse du même temps, du même coup, du fameux premier temps? La question n'est pas bonne, avez-vous répondu? La chose est mal posée, avez-vous affirmé? On peut très bien attendre, tout court, avez-vous ajouté, sous-entendu? On peut très bien attendre. Inattendu. Mais entre-temps, que faire? Vous ai-je demandé? Voilà la grande affaire. Je fais remarquer, faut-il fuir de vous à moi? Faut-il profiter du sursis pour aller voir ailleurs? Ou bien faut-il soutenir la syncope? Faut-il s'attendre à tout? La question n'est pas bonne. Est mal posé, avez-vous affirmé? On peut très bien attendre, tout court, avez-vous ajouté, l'inattendu.
L'inattendu de Rodolphe Burger, extrait de son dernier album solo Avalanche. Alors c'est vous qui avez signé le texte, ce que vous faites désormais de plus en plus souvent. Est-ce que Pierre vous poussait à écrire plus ou Olivier Cadio et Pierre Alféry étaient contents que vous empruntiez pas mal?
Oui, heureusement, ils avaient, il a plus besoin de nous. Enfin, non. En fait, c'est un texte qui est vraiment co-signé avec Pierre. C'est-à-dire que d'accord. Là aussi, un peu comme pour la chambre, je suis parti de quelques fragments d'un de ses derniers recueils qui s'appelait La sirène de Satan, dans divers chaos. Et par contre, c'est moi qui ai écrit à la suite de ça, parce que c'était pour répondre à une commande. Je vais raconter un peu comment ça s'est passé, parce que c'est le point de départ du disque, au fond. Ça ouvre l'album, l'inattendu, et bon, le bien nommé, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment tout ce disque qui a été inattendu. C'est parti d'une proposition qui n'est pas si habituelle pour moi, de répondre à, de faire ce qu'on appelle un featuring, quoi, de poser ma voix et une guitare sur une proposition instrumentale. Et c'est Christophe Calpini, qui est musicien avec qui je travaille beaucoup, producteur, que j'adore.
Et vous avez fait Horizon avec lui?
Comment Environ.
Environ,
pardon. Et puis Good aussi.
Good.
Et puis, oui. Et puis, c'est quelqu'un... on parlait de doctorat tout à l'heure à l'époque de Météor Show et ensuite de Nos Sports. Là c'est comme si j'avais trouvé à nouveau un partenaire à l'endroit où, notamment du rythme, célibataire, mm-hmm. lui aussi, mais pas que ça. Enfin, c'est quelqu'un qui est dans un rapport à la fois extrêmement presque virtuose au son, au studio, quoi, extrêmement délicat.
Et un orfèvre un peu comme Docteur.
Voilà, et avec un rapport aussi très poétique au son. Il mixe admirablement des choses qu'il appelle les bigorneaux, qui sont des petits bruits très discrets, qui sont à la limite entre le bruit et le son et la musique. Enfin, ouais. Et
Allegre FM 93.1.
Bref, il était venu avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Blaise Caillet, que je ne connaissais pas. Un vieux fan de Katonoma, qui lui est plutôt dans le jazz et qui pratique ce qu'on appelle le glinch. Alors, le glinch, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une chose alors, qui a été d'abord inventée dans sa forme analogique par quelqu'un qui s'appelle Stefan Bethke, et dont le nom d'artiste est Paul.
Mais c'est lui qui a produit l'album.
C'est lui qui a masterisé le disque.
Qui a masterisé,
ouais. Je suis allé le trouver. Oui. Ça, pour moi, c'était une manière de boucler les choses incroyable. C'est quelqu'un dont j'étais extrêmement fan dans les années 80. Il a sorti 3 disques qui sont des disques fétiches pour pas mal de gens, qui ont inauguré tout ce qu'on appelait la minimale berlinoise. Mm-hmm. Ils disent qu'il y a un bleu, un rouge et un jaune. Enfin, mm-hmm. Ça s'appelait Pôle 1 et 2 et 3. Des disques très conceptuels, mais extrêmement intéressant parce que fois très minimaliste, fait de bruit analogique produit, ce qui est considéré en général comme un défaut, les craquements du vinyle, etc. Il en a fait de la musique et sur une pulsation dub. C'est ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une electronica abstraite, intellectuelle purement. C'est vraiment une musique pulsée. Souvent les Allemands utilisaient
les Viennois aussi, Kruner, ouais, und Dorfmeister, ils ont beaucoup appris ça.
Tout à fait. Et j'ai vu des gens danser sur du pôle, quoi, à Berlin, c'était une beauté. Oui. Et donc voilà, ça c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et il se trouve que Blaise Caillet, lui, pratique un Lynch digital. Donc, mais qui exact, qui repose sur la même chose, c'est-à-dire la recherche des limites des outils même du studio, des machines, quoi. Pousser les machines à leurs limites et extraire des machines des espèces de possibilités qui font d'elles comme des instruments. Mmh. Et c'est quelqu'un aussi, bon, il faut être très obsessionnel et très un psychopathe du son quand même, hein, pour pratiquer ce genre de musique, et c'est son cas. Il est très sympathique, et ils avaient fait avec Christophe, ils avaient un projet ensemble, et ils avaient envie de me proposer un featuring, voilà. Et au début, j'y suis allé en disant, voilà, j'ai jamais fait ça, je sais pas, je promets rien, bon. Oui, t'inquiète pas, bon, ils sont venus au studio, ils viennent en général, ils viennent de Suisse, on fait une raclette, voilà, on passe un bon moment. Mais je voulais pas simplement qu'ils viennent non plus pour manger une raclette, donc ouais. Je me suis quand même un peu cassé la tête pour trouver une proposition. Et ça a donné l'inattendu, voilà. Et c'est vrai qu'on était tous les trois très heureux de ça. Mais bon, alors et tout de suite, ils ont dit, bah, il faut qu'on en fasse d'autres. J'ai dit, attendez, c'est pas parce qu'on en fait un que... Et en fait, ça a été vraiment le déclenchement de l'album. Ils m'ont littéralement harcelé avec des bribes d'instrumentaux, mais des bribes quand même très chiadées, mm-hmm. en termes de son, justement. Et j'étais là, j'ai dit, mais qu'est... Et j'étais... je me souviens, je suis allé à Berlin, et j'étais un peu malade, comme ça, dans le coltard, et donc je tournais en boucle ces instrumentaux pour voir si je trouvais un accès, une dramaturgie, une idée, quelque chose qui permette de transformer un instrumental en chanson. S'agit-il encore de chansons, je ne sais pas, mais en tout cas...
En morceaux, quoi.
En morceaux, voilà. Ouais. Et puis voilà, un certain nombre d'idées sont venues à la faveur de l'état un peu fiévreux. C'est marrant parce que David Lynch... Je revoyais pas mal de vidéos, raconte beaucoup comment les idées viennent. Lui, c'était son truc, quoi. C'est pêcher les idées. Lui, sa pratique, c'était la méditation. Mais ouais. Là, ça a été la fièvre, plutôt. Donc, j'ai eu des idées, mais pas vraiment de texte, des idées d'eux. Et ensuite, en studio, c'est allé très vite. Et ça, j'avais jamais connu pour moi-même une telle... tel niveau d'inspiration, quoi, par rapport à des textes, ou pas forcément des textes que j'ai écrits, mais des textes que je suis allé chercher, emprunter, comme je fais, ou des découpages que je fais à l'intérieur, puisque mes amis mm-hmm. m'autorisent à le faire.
C'est vrai que vous arriviez dans un projet musical déjà constitué, donc avec ces deux artistes. Il vous restait la guitare. Imposer, et puis la voix, et puis la direction aussi.
Oui, et puis quelque chose, voilà, et puis quelque chose qui est de l'ordre de la structure. Mm-hmm. Donc même si on n'est pas dans du couplet-refrain, etc., dans de la chanson, c'est pas du tout des textes posés sur une musique, pour moi. C'est vraiment...
De la composition.
Ouais, et ça s'apparente plus à ce que les Allemands appellent le Sprechgesang, quoi, c'est-à-dire pas du tout le talk-over. Il ne s'agit pas de parler sur... Et il s'agit de chercher un endroit qui est vraiment entre la parole et le chant, et qu'un endroit purement, vraiment musical, où ce qui se travaille, c'est la prosodie. Et donc, ça m'a ouvert des tons aussi, des tonalités. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être une dominante un peu sombre, mais pas que, je pense.
Non, pas tant que ça.
Pas tant, je l'espère en tout cas.
Non, pour un hommage à un ami disparu, ouais. C'est pas la tristesse qui l'emporte, ni la mélancolie, ou encore moins le désespoir. Non, il y a cette énergie dub, il y a cette rythmique qui est là pour nous tenir. Ensuite, il y a beaucoup de poésie, de la grâce, donc on est maintenu au-dessus de tout ça.
Il y a des choses drôles, je crois. Aussi.
Oui. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, quand même, c'est que bon, les textes sont de plus en plus concrets, alors pas réalistes, mais en tout cas simplifiés à l'extrême. La voix est de plus en plus expressive. On est loin de la distance du détachement des débuts. On est presque dans la proximité, pour ne pas dire l'intimité. La guitare est de plus en plus émotionnelle. Vous semblez prendre de plus en plus de plaisir sur scène. Alors, Rodolphe Burger, il faut du temps pour devenir jeune.
C'est peut-être ça. En tout cas, pour se détendre. En tout cas. Parce que j'étais dans une... j'ai les débuts, donc je parle des voilà, Catodomar, même les années préparatoires, j'étais dans une, indiscutablement, dans une tension, dans un stress quoi, lié vraiment à peut-être à aussi à cette chose que je pouvais vivre comme un peu une contradiction, une difficulté. Qu'est-ce que j'allais foutre, moi, qui ai fait de la philo tout d'un coup, revenir à ce truc du rock? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Qu'est-ce que j'avais à y faire? Suis-je... Est-ce que c'est régressif? Est-ce qu'on va faire... De... Il n'est pas question d'être dans un truc nostalgique, mais quel sens ça pouvait avoir, etc. Donc, il a fallu en effet du temps, quoi, parce que je m'aventurais dans quelque chose, je ne savais absolument pas où ça allait me conduire. Et c'est, bon voilà, c'est la force de... C'est en faisant et en multipliant les expériences quand même aussi, d'abord à l'intérieur du groupe, puis alors vraiment... à travers les collaborations qui m'ont... C'est comme avec la guitare, au fond, parce que je me souviens quand même. Mais au tout début de Catalan, je jouais avec un autre guitariste, qui est une sorte de virtuose. Et j'étais là, je me disais, bon, ben, j'ai pris des cours d'harmonie jazz et tout ça. À un moment donné, quoi, j'avais ce scrupule, je me disais, bon, est-ce que j'ai le droit de jouer de cette façon, qui est pas très académique, sans médiator, une espèce de rapport à la guitare assez, vraiment très personnel, qui est un peu en dehors, oui, des canons habituels. Bon, il se trouve que je suis en fait pas très fan de la pratique dominante de la guitare, et pas du tout fasciné par le virtuosisme, même si...
À James Lothalmer, il y a une partie de maestria.
Mais bien sûr, mais avec des involtures.
Oui.
C'est comme Mehdi Hadab, avec lequel j'ai joué encore hier soir. Mm-hmm. Là, c'est ce que j'adore chez lui, c'est un virtuose incroyable du oud électrique, mm-hmm. mais à aucun moment...
On le surnomme le Jimi Hendrix du oud.
Oui, voilà. Ouais. Oui, c'est mérité. Hein. mais, et Blood aussi, d'ailleurs, on dit ça, lui. Mais ce qui me frappe, et c'est pour ça qu'on s'entend si bien, c'est que ça cause et que ça phrase tout le temps. Mmh. Donc il n'y a jamais, j'ai jamais de gratuité, il y a de complaisance. Voilà, et c'est ça qui est insupportable en musique.
Mais il faut surtout que ça reste une conversation.
Oui, c'est-à-dire que ça discute.
Voilà, il faut que ça discute. Si ça n'échange pas, voilà, c'est là où c'est stérile. On est toujours sur Allegre FM 93.1, en présence de Rodolphe Burger pour son dernier album Avalanche. Alors, il y a une constance dans votre œuvre, hein. C'est la part belle que fait votre musique au silence, à l'accident, à l'imprévu, on vient d'en parler. Donc, l'idée intendue, ce n'est pas uniquement en amour, hein, c'est aussi en musique. Est-ce que, comme Eric Dolphy, ce grand saxophoniste américain, compagnon de route de Ornette Coleman et de Don Cherry, on peut dire un des fondateurs du free jazz, est-ce qu'il s'agit pour vous d'être toujours out, d'être en dehors, de pratiquer les limites extérieures, de longer les frontières? Alors, comme dit Jean-Marc Padovani à son sujet dans Les mots de la musique, d'emprunter les lignes de crête sur lesquelles on marche, et sur celles-ci, il suffit d'un léger déséquilibre, d'un vent bon ou mauvais, pour que la chute soit effective. Vous sentez proche de ce genre de démarche?
Oui, sauf que je ne pense pas être... justement, quand tu parles de Dolphy, d'Ornette, de ces... on pourrait mentionner d'autres grands, comme ça... solitaires, enfin, qui se sont fait des anapurnas, quoi, qui sont des grands improvisateurs aussi, qui prennent des risques énormes. Donc, moi, je me sens pas de ce côté-là. C'est-à-dire que je suis pas un grand improvisateur. J'aime beaucoup la variation, je déteste reproduire, exécuter une musique. Mais pour autant, je pars pas en expédition à haut risque comme ça. J'ai besoin d'être encordé, accompagné.
D'accord.
Mais par contre, oui, c'est-à-dire évidemment que ce qui... C'est marrant parce que vos citations, là, ça renvoie à des choses géographiques. Bon, je viens d'une région frontalière, les crêtes.
Ouais.
Au-dessus de chez moi, il y a une route qui s'appelle la route des crêtes. Et c'est vrai que, bon, voilà, je m'intéresse plutôt à ce qui est, par exemple, en bordure d'un genre, ou ce qui interroge un genre à partir de sa limite, que je m'inscris rarement à l'intérieur d'un canon, d'un genre, même le blues, qui est une musique voilà, que, évidemment, qui est un peu... qui revient pour moi comme une sorte de matrice, quoi. Il m'arrive rarement de faire un blues en 12 mesures canonique. Il faut toujours qu'il y ait une petite tangente, un petit pas de côté, quoi.
Il y a quand même ce qui revient, donc, on l'a dit, le silence, hein, l'accident, l'imprévu. Donc le silence, c'est aussi le néant. Est-ce que la musique, c'est le grand dialogue avec la mort, ou en tout cas avec l'invisible? Est-ce qu'il y a quelque chose de ça dans le dernier album?
Oui, enfin... c'est vrai que, alors là, pour être dans une autre métaphorique qui est très souvent évoquée quand on parle de musique, quoi. C'est une sorte de navigation, quoi. Mais ce qui est... On peut vivre des moments de... Là, je dis souvenirs de... notamment avec Dr. L, au milieu de la nuit, de se sentir vraiment perdu, quoi. Perdu parce que l'infini des possibles, si on se met un petit peu à ôter les garde-fous, à sortir des clous et des chemins rabattus, on peut se perdre, tout simplement. Ce qui est extraordinaire, c'est quand on fait l'expérience inverse, c'est-à-dire qu'en prenant ce risque-là, et ben malgré tout, on tient un cap pour se... On se repère, mais alors à quoi? Quelque chose qui n'est plus, donc une convention, qui quelque chose qui se reconnaît. Enfin là, je parle de la pratique à plusieurs, parce que la musique se fait toujours à plusieurs, et le partenaire n'est pas forcément instrumentiste, il peut être derrière la console. Hein. C'est quand on constate qu'on arrive à tomber d'accord sur quelque chose qui ne peut pas être défini au préalable, qui n'appartient pas ni à une culture, ni à un héritage, ni rien. Quelque chose qui est, pour le coup, vraiment inconnu, et en même temps,
Il n'y a pas de musique sans péril.
Oui, mais...
Il faut risquer la perdition pour trouver.
Mais ce qui est cool, c'est quand on trouve... C'est l'expérience aussi, tu joues avec un musicien ouzbek. Ce que j'ai fait. A priori, il n'y a pas de langue commune, donc on ne peut pas échanger. Ils ne parlent pas du tout anglais, moi pas du tout russe, et ni ouzbek forcément. Et puis quand tout d'un coup on découvre, avec des cultures musicales qui sont aux antipodes, hein, a priori, qu'on découvre un terrain commun, qu'on arrive à discuter, donc on est en terrain inconnu, et quelque chose se trouve. C'est la même chose avec, même avec Eric Marchand. Collaboration hautement improbable. Jamais j'aurais sur le papier dit voilà, c'est pas le résultat d'un projet. Ah, je voudrais faire quelque chose avec un chanteur breton. Pas du tout, je dirais même.
A priori non.
I would prefer not. Ah ouais. Non. Mais il se trouve que c'est la rencontre avec quelqu'un qui est pas du tout un chanteur breton, qui est juste un chanteur incroyable. D'ailleurs, aussi balkanisé peut-être que bretonnant, enfin, il chante roumain aussi bien et musicalement très attiré par. Il a une connaissance en plus de toutes les musiques modales possibles et imaginables. Donc c'est toujours une rencontre avec quelqu'un avec qui vous avez. On trouve une manière de discuter inattendue. Voilà.
On va écouter un second morceau, un second extrait de l'album Avalanche qui s'appelle Le Bois Lacté.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
De la brise salée.
des oiseaux, dans le Bois Lacté. Regarde. C'est la nuit trottinant comme un bourricot parmi les chambres douillettes des bébés. C'est la nuit qui se déploie sans me dire. Cerisier de la rue du Couronnement. Écoute, écoute. Approche-toi. Le temps passe. Écoute. Seul peut entendre et voir derrière les yeux des ormeurs les mouvements, les pays et les labyrinthes et les couleurs et les arcs-en-ciel et les airs de chansons et les désirs. Les envols et les chutes, les mers immenses de leurs songes. Écoute. D'où tu es, tu peux entendre leurs rêves. Seul peut les entendre et les voir, les airs de chansons, les désirs, les envols.
Le Bois Lacté de Rodolphe Burger, extrait de l'album Avalanche qui vient de sortir, édition Dernière Bande Production. Donc bon, c'est un petit chef-d'œuvre. La critique n'a pas manqué de le remarquer. Il est à l'image de tout l'album, qui est de haute volée. Rodolphe Burger, vous enchaînez les collaborations, vous multipliez les concerts. Vous semblez ne jamais vouloir vous arrêter. Le temps presse. Est-ce qu'on retrouve avec l'âge un espèce d'état d'urgence?
Oui, en même temps, avec l'âge, on ressent aussi un besoin de calmer le jeu. Hein. Mais non, il y a deux raisons, je pense, qui font. Parce qu'on me pose souvent cette question. Enfin, je passe pour une sorte de
Stakhanovitch ouais, de la musique.
Ça, c'est surtout par rapport à des habitudes françaises. Hein, si on regarde le fonctionnement de certains. Artistes, musiciens anglo-saxons.
Ouais, c'est un album.
C'est normal. Et de multiplier les collaborations, etc. Enfin, dans le jazz. Mmh. Mais je dirais à la fois que ça vient du fait que j'ai un peu conquis de haute lutte une certaine liberté. Donc, ça a mis du temps quand même. C'est pas toujours été facile, mais là, je peux en profiter. Il y a ça. Donc, voilà.
Ça convient beaucoup plus à vous que vous allez aux autres. On vous propose plein de choses.
Oui, il y a ça, mais aussi, par exemple, voilà, ce disque, Avalanche, bon, c'est pas prévu. J'ai pas à consulter un directeur artistique. Ah, il va me dire, non, Coco, fais-moi un album tous les deux ans, suivi d'une tournée, enfin, on connaît le truc.
Oui, il faut rappeler qu'en fait, vous êtes votre propre producteur.
Oui, voilà.
Vous avez votre maison de disques. Vous êtes votre propre structure qui est totalement indépendante, qui est autonome et qui fonctionne, qui est rentable. Et donc, vous avez effectivement une liberté absolue.
Oui, donc ça, il y a ça, d'une part. Et puis, il y a le fait que je me disais, j'ai commencé, ou recommencé, parce que j'ai commencé très tôt, faire du rock et de la musique, j'avais 11 ans, tout ça. Donc, je dirais de 11 à 17 ans, ça a été mon activité principale, pas la seule, parce que c'est des années où il y avait d'autres choses. Hein. Il y avait la politique, il y avait plein de trucs. Mais en tout cas, c'était pas des années où l'école prenait la première place. C'était vraiment les années 70. Et le rock était vraiment très, très... J'ai fait ça avec passion. Mais bon, je pensais avoir fait le tour. Donc après, voilà, j'ai eu une autre période plutôt dédiée à la philo, où je continuais à écouter beaucoup de musique, évidemment. Mais je pensais jamais y revenir. Et quand j'y suis revenu, ça a été avec une certaine problématique. Est-ce encore possible? J'ai rencontré d'autres musiciens à Strasbourg qui étaient un peu dans la même situation, qui avaient tous eu une passion comme ça pour le rock, mais qui avait aussi écouté d'autres trucs, pratiqué de la musique improvisée, qui avait trouvé dans le free jazz comme un alcool quelquefois plus fort, ou quelque chose qui se rapprochait plus du punk que ce que le rock était en train de devenir à ce moment-là. Donc, voilà, et qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire avec tout ça? Donc ça nous a pris quelques années, et bref, j'ai au fond recommencé assez tard. Et voilà, donc je me sens à peine dans l'âge... Ou certains... Donc des fois, c'est... J'ai du mal à me dire que je suis comme Leonard Cohen, ou genre, dans une fin de parcours. En même temps, voilà, je suis à l'âge où il faut se dire que peut-être.
Non, je pensais plus à Dylan, la tournée sans fin.
Oui.
Parce que, en fait, moi j'étais surpris que l'album soit si rapproché du précédent. Je suis toujours étonné, impressionné par tous les concerts que vous faites, toutes les dates qui sont annoncées. Et puis c'est partout, hein, c'est partout en France, c'est aussi en Allemagne, c'est aussi un peu partout à l'étranger. Donc c'est vrai que c'est une habitude. Pour les anglo-saxons, c'est pas une exception, parce que c'est un album par an et une tournée. Mais pour chez les Français, où c'est un album tous les 5 ans et encore, si ça va bien, ça change. Mais tant mieux, on s'en réjouit. Est-ce que vous allez encore défendre Avalanche sur scène
Ah oui, bien sûr. Ouais, oui, j'ai même hâte.
Moi aussi.
Sous plusieurs formes. Là, donc il est sorti là, en novembre, et le jour de la sortie, on a fait un concert avec Christophe Calpini au studio de l'Ermitage. Et alors même qu'on avait... je crois que vous aviez assisté à une avant-première de ça à la Maison de la Poésie.
Oui, j'y étais.
Fait la proposition avec images, parce que ça, c'est une chose que j'ai oublié de mentionner, qui est que bon, l'album est dédié à Pierre aussi pour ça. C'est qu'il a fait ce cadeau, d'une certaine manière, d'écouter tous les morceaux et de se prêter à un exercice qu'il a déjà proposé il y a quelques années, qui est d'associer à chaque morceau un film. Parce qu'il avait une mémoire intégrale du cinéma, et d'un cinéma qui n'était même pas le cinéma des cinéphiles. Il avait un goût et des intérêts très très particuliers, des intérêts qui n'étaient que les siens. Enfin, c'était assez extraordinaire.
Oui, il y avait des péplums, il y avait des séries, il y avait Zorro.
Série Z, des choses, enfin toutes sortes. Oui. Et voilà, il a bien voulu faire ça, et donc ça a permis qu'on donne aussi une forme, pour moi, nouvelle. Hein, donc, à Avalanche, un concert, on pourra... avec accompagné d'images montées par Cynthia Delbar à partir des instructions ou des indications de Pierre Alfieri.
Et ça fonctionne très bien, et ça provoque parfois des accidents inattendus. Bon, c'est un peu le bon fonctionnement. Alors, moi, si on m'avait dit, quand j'ai commencé à vous écouter, je vais avoir 16-17 ans, qu'un jour j'écouterais Rodolphe Burger chanter sous autotune ou en italien, je crois que je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, c'est arrivé sur le dernier album. Bon, je pense incontestablement que Pierre aurait aimé cet album, que ça l'aurait profondément touché. L'année dernière, quand je vous avais reçu dans l'émission d'Yves Tanret, La vie est un roman, je vous avais présenté comme l'un des plus grands musiciens français, si ce n'est le plus grand, et vous aviez écarquillé les yeux, vous aviez l'air d'être le premier surpris. En tout cas, pour moi, vous êtes le plus libre, assurément. Avec quel autre musicien vous sentez des affinités actuellement en France?
Oh ben là, je dirais... Oui, bien sûr. Bertrand Belin, bien sûr. Oui. C'est comme un peu un frère cadet.
Oui.
Il se trouve que j'ai un frère cadet dans la vie qui s'appelle Bertrand aussi. Donc c'est mon autre frère. Mais je suis très près son chemin. Je trouve qu'il est extraordinaire.
Vous avez joué ensemble sur scène ?
Oui, on joue.
Il a vous avez enregistré Lens ensemble, avec
voilà,
lui.
Voilà, et puis la chanson qui est un morceau.
Sur Environ.
Voilà, qui s'appelle Les Danses Anglaises. Et là, il m'a invité, je vais faire quelque chose, je crois, sur son prochain disque. Mais oui, sur scène, on aime beaucoup se retrouver. Il y a des points communs, c'est clair. Le fait qu'il se soit retrouvé, j'avoue, le jour où j'ai appris que Bertrand, que je connaissais bien comme musicien, serait en plus serait édité chez POL. POL, qui est donc l'éditeur de Polo Tchaikovsky-Laurence, qui m'avait parlé de Belin. Il ne savait pas du tout que Bertrand était chanteur, il ne connaissait pas. Je vais le signer, là, un jeune gars, c'est super, c'est Bertrand Belin. Et je sais quelle importance, dans le chemin de Bertrand, un certain nombre de lectures, justement, notamment, pas seulement, mais Tarkos, qui était ce poète incroyable. Oui. Publié chez POL. Et donc ça, c'est, j'avoue. Et je pense que quand même, il a un peu la chance d'être arrivé à un moment où on était plus tolérant avec des musiciens qui lisaient des livres ou écrivaient même des livres, c'est son cas. Je me souviens quand même d'avoir essuyé pas mal de critiques de la part de à l'époque, et dans des canards comme Libération,
bien sûr,
voir les Arabes,
oui.
C'était vraiment pas très bien vu.
C'était l'étiquette intello, voilà,
oui,
tout simplement.
Bah, oui, je me souviens
intello, et c'était pas bon de. Alors, ouais. Si on lisait des livres, fallait pas le dire.
Fallait surtout pas le dire.
Et il fallait faire croire que le milieu rock était un milieu inculte où il y avait que le rock qui valait,
exactement.
Que cette énergie et cette révolte.
Absolument.
Et ce qui était hypocrite, hein, parce que
plus,
tous les niveaux d'art et tous les domaines de l'art communiquent.
Oui, c'était très curieux, parce que c'était en plus, souvent, ces critiques émanaient de gens qui étaient eux-mêmes des écrivains moins ratés ou profs.
Ça me donne l'occasion de finir sur une figure, un morceau qui s'appelle Zorro. Donc là, finalement, on est en train de jouer les Vengeurs masqués. On venge le rock, on venge un certain art qui a été souvent décrié et rabaissé. Merci beaucoup Rodolphe Burger d'être venu à Ligre FM sur 93.1. Nous remercions très chaleureusement Sephraim Fami, Damien Gissa, Lucas Pantour, Enrico Mastro Giovanni. Merci pour leur présence derrière la vitre et pour ce travail remarquable. Merci Yves encore de nous avoir invités et à la semaine prochaine.
Revenez quand vous voulez.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.